Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous voir. Bienvenue à toutes et à tous à l'auditoire Calvin ce matin, avec une belle lumière. Emmanuel et moi vous souhaitons la bienvenue au nom du conseil de paroisse de Saint-Pierre et de l'association Genève Humanitaire dirigée par Roger Durand, ici présent. Et nous consacrons donc ce colloque au lien entre la foi chrétienne et l'engagement humanitaire. C'est le deuxième volet de la commémoration du 150e anniversaire de la Croix-Rouge qui fait suite à l'hommage que nous avons rendu le 8 mai dernier à la cathédrale Saint-Pierre. Mais au fait, pourquoi un tel sujet ? Le lien entre foi chrétienne et engagement humanitaire nous a interpellés à plusieurs titres. D'abord, pour des raisons d'ordre philosophique. D'où vient l'idée de la Croix-Rouge ? Quel est son enracinement éthique et spirituel ? Sur quelles valeurs se fonde-t-elle ? Et a fortiori, quel rôle a joué le christianisme dans l'action des fondateurs de la Croix-Rouge, tous des protestants engagés et imprégnés de valeurs judéo-chrétiennes. Il y a aussi des raisons historiques et géographiques. C'est la Croix-Rouge en tant qu'institution qui est née à deux pas d'ici, sur le territoire paroissial de Saint-Pierre, où nous sommes réunis aujourd'hui. Le contexte historique de Genève, ce lieu de naissance de la première grande organisation humanitaire laïque, sera évidemment au centre de notre réflexion. Il y a également des raisons plus actuelles au choix de ce thème, car aujourd'hui, vous le savez, sur le terrain des conflits, la violence confessionnelle se déchaîne avec une terrible intensité. Les facteurs religieux sont plus déterminants qu'avant dans les perceptions des belligérants. Il est par conséquent important d'identifier le plus clairement possible ce qui peut déterminer de telles perceptions. Et puis il y a aussi une autre raison qui nous a interpellés. C'est une sorte de démangeaison intellectuelle. Emmanuel et moi, nous sommes demandés... Pourquoi l'articulation entre foi et humanitaire était si peu explorée ? Et pourquoi la mention de ce lien foi et humanitaire suscitait parfois tant de gêne et de non-dits, comme si ces deux réalités étaient une fois pour toutes déconnectées l'une de l'autre, chacune vivant sa vie dans une parfaite étanchéité ? Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans une matière riche et délicate, et nous allons essayer de l'éclairer sous des angles variés grâce à la diversité de l'expertise et de l'expérience de nos intervenants. Avec eux, nous allons débroussailler le thème qui nous réunit et qui sera... certainement source de débats, voire de controverses, car comme dit le grand philosophe allemand Lichtenberg, il est impossible de porter à travers la foule le flambeau de la vérité sans roussir ici ou là une barbe ou une perruque. Alors, le programme de la journée est copieux. Ce matin, nous avons trois thèmes au menu. Le bouillonnement du protestantisme genevois au XIXe siècle, la foi des fondateurs du CICR, à commencer par Dunant et Moynier et Appia, ainsi que Gustave Ador. Nous avons également le témoignage exceptionnel de Cornelio Samaruga, intitulé « Chrétien et président du CICR ». Et tout ça va nous mener jusqu'aux environs de 12h15. Les présentations seront brèves. Et on va essayer de se ménager le maximum de temps afin de, d'encourager la discussion avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos intervenants, je voudrais remercier les généreux mécènes et sponsors qui ont soutenu notre initiative du 150e anniversaire de la Croix-Rouge dans le cadre de la paroisse de Saint-Pierre, et saluer ceux d'entre eux qui nous ont rejoints ici aujourd'hui. C'est grâce à leur générosité que nous avons pu mettre sur pied ces événements. Donc, au nom du conseil de paroisse, mille merci. Maintenant, Emmanuel va nous dire quelques mots sur l'organisation.
Bonjour à tous. Voilà, vous avez le programme en main, vous avez vu à quel point il est copieux. Cela ne nous empêche pas de vouloir vous associer à cette commémoration, à cette réflexion, et vous aurez l'occasion de le faire durant deux mini-débats qui seront organisés. Je circulerai parmi vous avec le micro pour que tout le monde puisse vous entendre, entendre vos réactions. Et ces deux débats auront lieu après l'intervention de Roger Durand et après celle de Marie Bron, puis évidemment après celle de Cornelio Sommaruga. Donc vous aurez trois fois l'occasion de réagir durant la matinée, et deux pauses assez brèves seront à votre disposition pour boire un café. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe de Genève Humanitaire qui a préparé cette table avec tant de goût. Merci à elles, puisque ce sont essentiellement des dames qui l'ont faite. Je vous signale un certain nombre de publications qui sont sur les tables, un certain nombre qui sont faites par l'association Genève Humanitaire, et puis deux exemplaires de la vie protestante. Alors ne vous fiez pas aux couvertures, sachez qu'il y a à l'intérieur à chaque fois des articles extrêmement intéressants, l'un sur le CICR en général et toute son œuvre à travers le monde, et puis l'autre sur l'interview de Paul Grossrieder. Paul Grossrieder qui était dominicain et qui a dirigé le CICR durant 4 années. C'est une interview absolument remarquable que nous avons eu la chance de réaliser, Jean-François et moi, avec Christina Fedele. Nous étions allés le voir à Charmey et c'était une rencontre magnifique. Évidemment, toutes ces interventions sont libres. Vous pouvez assister à l'une, vous retirer pour une autre. Voilà, vous pouvez un peu faire votre choix, mais d'ores et déjà, je vous signale la fin de notre journée. Et la fin de notre journée se passera à la cathédrale Saint-Pierre, avec l'appel spirituel de Genève, à 18h. Je remercie le pasteur Bill McComish, qui est présent, d'avoir mobilisé l'appel spirituel qui va nous entraîner dans une prière universelle. Il y aura notamment présent dans la cathédrale à ce moment-là, outre le pasteur Bill McComish, Monseigneur Morero, le rabbin François Garay et un certain nombre de personnes qui portent ce souci que les religions ne soient pas facteurs de division, mais de réconciliation et de paix. Alors merci à tous pour votre présence, je n'allonge pas et je redonne la parole à Jean-François pour la présentation de Madame Valérie Lathion. Après, je vous promets qu'on se tait.
Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Madame Valérie Lathion. Madame Lathion a bien voulu remplacer au pied levé le professeur Olivier Facio, malheureusement surchargé par ses nombreuses activités. Madame Valérie Lathion est doctoresse lettres. Elle est chargée d'enseignement au département d'histoire générale de la faculté des lettres de l'Université de Genève. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2007, est intitulée « Un dimanche pour Dieu ou pour l'homme ? Une croisade philanthropique et religieuse pour la défense du dimanche chrétien, modèles et pratiques au XIXe et au début du XXe siècle. » Cette thèse traite de la philanthropie, des pratiques religieuses ainsi que des loisirs. Madame Lathion, vous avez la parole.
Alors pour bien comprendre le bouillonnement du protestantisme genevois à la fin du XIXe siècle et contextualiser la foi des fondateurs de la Croix-Rouge, il est judicieux de parcourir le siècle et de remonter jusqu'à l'époque de la Restauration en y examinant autant les institutions que la pratique religieuse. Lors de la Restauration, Genève vit une période de réveil religieux qui va profondément modifier la donne chrétienne. Comme vous le savez, le réveil est un mouvement de renouveau qui touche l'ensemble du protestantisme européen durant cette période. Il est issu d'une réaction d'une minorité des fidèles au rationalisme religieux du siècle précédent et encourage une foi personnelle, mystique, vécue dans son fort intérieur. Les revivalistes recherchent une nouvelle spiritualité s'appuyant sur une expérience du cœur, sur le sentiment, tout en plaçant les Écritures au centre de leurs réflexions. La majorité d'entre eux défendent la conception d'une église de professants, c'est-à-dire de régénérés, qui ont vécu à l'âge adulte une conversion spontanée ou nouvelle naissance. De ce fait, des conventicules et églises de réveil se forment et consacrent toute leur force à convertir chaque chrétien simplement baptisé. À Genève, le réveil se manifeste en deux vagues. Une première, dans les années 1810 et 20, autour de la Société des Amis, qui regroupe notamment plusieurs étudiants en théologie, dont Amy Bost. Ce premier réveil voit la fondation de deux églises dissidentes distinctes. L'église du Bourg de Fours, fondée en 1817, et qui prendra le nom d'église de la Pélisserie après la construction d'une chapelle éponyme. Et l'église du Témoignage, du nom du lieu de culte érigé dans le jardin de son fondateur, César Malan, en 1820. Une seconde vague déferle avec la création de la Société évangélique en 1831, qui bâtit la chapelle de l'Oratoire et fonde une école de théologie appelée École de l'Oratoire ou Faculté libre de théologie, afin de combattre les doctrines libérales enseignées à l'Académie de Genève. La Société évangélique a été fondée par des personnalités de la haute société genevoise, autour du pasteur Louis Gosson, dont la prédication aura une grande influence sur le jeune Henri Dunant, ainsi que des pasteurs Antoine Galland et Jean-Henri Merle d'Aubigny, tous trois destitués par l'Église de Genève. Ces activités se développent en trois pôles, édifier les fidèles, former de futurs évangélistes, pasteurs et théologiens, ainsi que répandre leur protestantisme et réveiller les chrétiens avec son département d'évangélisation et de colportage, dont l'action est surtout orientée sur la France. Bien que dans un premier temps la Société évangélique refuse de se constituer officiellement une église indépendante, est fondée à Genève en 1848 l'Église évangélique libre, appelée aussi Église de l'Oratoire, qui regroupe les chapelles de l'Oratoire et de la Pélisserie, ainsi que la majorité des fidèles de la communauté de Malan et une minorité de l'Église nationale. La séparation effective avec l'Église nationale est surtout due à la modification institutionnelle que vit l'Église de Genève l'année précédente, suite à la révolution de 1846, et qui affirme le multitudinisme de l'Église nationale protestante de Genève. Cela signifie que l'Église accepte tous les baptisés. En effet, en raison des deux révolutions de 1842 et de 1846, l'Église de Genève se modifie institutionnellement. D'église clergée, elle passe à une église peuple, avec notamment l'élection par l'ensemble des citoyens protestants, des pasteurs et des membres du consistoire, celui-ci ne partageant désormais plus le gouvernement de l'église avec la compagnie des pasteurs. Le réveil a donc contribué à créer de nouvelles églises en rupture avec les institutions officielles. Le ralliement définitif à une église indépendante n'est toutefois nullement une norme parmi les revivalistes. Ceux-ci participent à la vie ecclésiale autant dans les nouvelles communautés que dans les églises traditionnelles. À Genève, deux branches se forment ainsi dans l'église nationale, les évangéliques ou orthodoxes et les libéraux, qui n'arrivent toutefois pas à cohabiter sans heurts. En effet, les dissensions sont très vives au sein de l'église nationale, si bien que le protestantisme genevois est au XIXe siècle menacé d'enlisement dans les luttes intestines. À cela s'ajoute le combat anticatholique, extrêmement virulent, qui peut pousser les pasteurs et fidèles à se dépasser pour convaincre et convertir ceux qui sont dans l'erreur. Mais ce duel engendre un prosélytisme très actif et se cristallise autour de plusieurs affaires qui exacerbe les haines et la concurrence entre les communautés, d'autant plus que la communauté protestante est numériquement dépassée dès 1860 par la communauté catholique. Comme l'évangélisation et le témoignage d'une foi revivifiée sont les bases mêmes de l'existence des églises du réveil, elle propose une multitude d'activités qui se manifestent dans une spiritualité renouvelée et dans une vie sociale et associative plus dense que celle des églises traditionnelles. Un grand nombre d'institutions nouvelles sont créées, telles que des écoles du dimanche, ou encore des réunions intimes le dimanche soir, où les fidèles prient ensemble, chantent des cantiques, que les revivalistes préfèrent aux traditionnels psaumes, et lisent la Bible. La spiritualité revivaliste est empreinte de romantisme, comme l'usage de la musique et l'appel aux sentiments le démontrent. Bien que ces assemblées et la nature même du mouvement provoquent un repli sur soi, la vivacité religieuse se répand sur l'ensemble du protestantisme. Certaines de ces institutions entrent progressivement dans les mœurs des églises nationales. Par ailleurs, le réveil, au nom de l'édification de la mission et de la charité, suscite de nombreuses œuvres religieuses, comme les comités de mission ou les sociétés de publication ou de diffusion de livres religieux, et également de nombreuses œuvres philanthropiques. Je vous cite deux exemples, la Société des domestiques protestantes ou la Société du lavoir public. Selon l'historien Paul Guichenet, le réveil à Genève, je cite, « engendra les excès d'un sectarisme puritain et intransigeant parmi les momiers, mais il donna également à la cité un protestantisme engagé dans les œuvres charitables qui préfigurent les institutions humanitaires et internationales de la Genève contemporaine. » Fin de citation. L'examen du réveil et de l'œuvre religieuse et philanthropique qui en découla, l'analyse des résultats du prosélytisme anticatholique, peuvent cependant nous donner une impression faussée, car trop positive, de la vivacité du protestantisme genevois au milieu du siècle. Même si le renouveau religieux a eu une influence sur l'ensemble du protestantisme, même si le prosélytisme renouvelle les rangs des églises dissidentes et nationales, de nombreux signes de déchristianisation se manifestent dans la société, notamment par rapport à l'emploi du jour du Seigneur. En bref, l'examen de la pratique religieuse au milieu du XIXe siècle permet d'appréhender la question. Pour les églises libres, églises de professants, la question de la fréquentation cultuelle n'est pas un enjeu. Leurs membres, convertis, fréquentent les cultes massivement. Pour l'Église nationale, multitudiniste, ces autorités veillent au grain. Elles oscillent d'ailleurs entre les constatations triomphalistes d'assemblées nombreuses, en particulier lors des grandes solennités, des services extraordinaires ou des conférences spéciales données par des prédicateurs de renom, et au contraire, les plaintes devant une stagnation, voire un recul de la fréquentation cultuelle, surtout lors des services ordinaires. Ces observations sont certes le reflet de la signification que leurs auteurs veulent leur donner. Autosatisfaction, afin de rassurer la communauté, peut-être face au danger d'un recul de sa propre confession, ou avertissement pour relancer l'évangélisation. Ce bilan officiel plutôt mitigé relance les initiatives pour réchauffer les fidèles et oblige l'Église nationale à réfléchir à différentes stratégies dans l'optique d'un réveil permanent. Trois questions sont particulièrement à l'ordre du jour. La diversification des horaires et des types de services divins, le chant sacré, qui est alors jugé en pleine décadence, et l'enseignement religieux. C'est en effet au milieu du siècle que la Compagnie des pasteurs introduit des services plus simples, le dimanche soir, durant lesquels le pasteur parle du bas de la chair, sur le modèle des réunions familières des églises libres. Alors que ces cultes sont pensés comme complément au culte du matin, ils deviennent finalement une alternative, surtout dans les quartiers populaires. Précisons que jusqu'alors, deux types de services étaient organisés le dimanche, le principal le matin et en second, plutôt en début d'après-midi. Là, nous sommes face à une nouvelle offre, notamment en raison de son contenu. C'est également dans ce type de service que sera introduit progressivement de la musique interprétée et non seulement le chant des fidèles. Car l'Église nationale prend conscience que ce type de service rencontre beaucoup de succès dans les églises libres et qu'il vaut mieux en organiser aussi dans les temples nationaux pour limiter les pertes. Une prise de conscience se fait également par rapport à ceux qui sont exclus du culte public, notamment les domestiques et les personnes peu fortunées en raison de leurs vêtements et de l'achat ou de la location des bancs, usage décrié, mais qui perdure à Genève durant la seconde moitié du XIXe siècle. Nous pouvons aussi constater l'influence des pratiques issues des milieux du réveil dans la question du chant des fidèles, avec l'élaboration d'un nouveau recueil de cantiques, alors que traditionnellement seuls les psaumes sont chantés par l'assistance dans les églises, et une nouvelle harmonisation des psaumes. L'influence revivaliste se fait aussi sentir dans la réflexion menée sur l'enseignement religieux avec la création d'écoles du dimanche. Le renouveau religieux inspire aussi des initiatives privées, où le message évangélique est à l'origine d'une conscience philanthropique qui génère une croisade sociale. Ainsi, de nombreuses associations et ligues sont créées et prennent leur essor dans la seconde moitié du XIXe siècle, telles par exemple les sociétés de tempérance, comme celle de la Croix-Bleue, fondée en 1867, la société de vigilance contre la littérature licencieuse, qui se développe au niveau international, ou encore la Société pour la sanctification du dimanche, fondée en 1861, et qui devient une fédération internationale 15 ans plus tard. La question de la sanctification du dimanche, sous les angles religieux et philanthropiques, est alors un enjeu pour toute personne se souciant de la vitalité de la pratique religieuse et de l'avenir du christianisme, d'autant plus que les nombreux signes dans l'an détachement religieux sont perçus par les personnes les plus pieuses qui désirent y remédier, autant par l'évangélisation que par la moralisation de la société. Ces signes de détachement se manifestent dans l'emploi du temps dominical, avec les nombreuses possibilités d'excursion, facilitées par les nouveaux transports publics, le train notamment, de fêtes publiques, mais aussi à cause de l'envahissement du travail, en particulier dans le monde de l'industrie et du commerce. La Société pour la sanctification et son réseau international, via la Fédération internationale pour l'observation du dimanche, est un bon exemple de l'essor de mouvements associatifs dont le but philanthropique, qui sera du reste atteint grâce aux nouvelles législations protégeant le repos dominical, donc dont le but philanthropique repose sur un idéal religieux. Pour leurs membres, la sauvegarde du repos dominical, mais aussi sa moralisation et sa sanctification, est une condition indispensable au salut de la nation, de la société et de la civilisation chrétienne. Cette croisade religieuse et philanthropique s'inscrit dans le foisonnement européen de la réforme sociale qui se manifeste entre 1870 et 1914 et dont le réseau local genevois a généré de nombreuses œuvres religieuses et philanthropiques à vocation internationale. Les annuaires philanthropiques genevois parus dès 1875 montrent cette progression vertigineuse. Alors qu'en 1875, l'annuaire dénombre 207 institutions à Genève, toutes les institutions sont dénombrées, indépendamment de leur origine et de leur couleur politique ou confessionnelle, donc 207 en 1875, en 1893, on passe à 413 institutions et en 1903 à 514. C'est d'ailleurs dans ce contexte de protestantisme engagé dans l'action religieuse et philanthropique que nous devons comprendre la démarche de Dunant lors de la création de l'Union chrétienne Jeunes gens et de son Alliance universelle, puis dans sa mission chrétienne et philanthropique concrétisée par la fondation de la Croix-Rouge. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs événements matérialisent à Genève le progrès de la laïcisation de la société et agissent comme des aiguillons pour ceux qui refusent de voir s'estomper ou voire même disparaître le risque de disparition du caractère chrétien de la société dans laquelle ils vivent. En 1869, dans un contexte politique particulier qu'il serait trop long de détailler maintenant, les radicaux parviennent au Grand Conseil à faire abroger l'interdiction de travail en public les dimanches et jours de fête. Étant donné qu'alors le repos dominical est pour la majorité des intervenants perçu uniquement sous son angle religieux, l'affrontement a été vif pour savoir si l'État est chrétien. Ce vote apparaît ainsi à ses contemporains comme une première étape vers la séparation entre l'Église et l'État. Cette abrogation concourra par ailleurs à convaincre les partisans du repos dominical à utiliser une argumentation philanthropique en vue d'une législation laïcisée, même si l'idéal religieux est leur moteur. La tension exacerbée dans la décennie suivante, c'est-à-dire les années 1870, avec le bien connu Kulturkampf, ou combat pour la civilisation, conflit religieux et politique qui traduit également ailleurs en Europe les tentatives de redéfinir les liens entre l'Église et l'État dans le processus de déchristianisation de l'État que vivent alors les sociétés européennes. À Genève, il génère un mouvement anticlérical général de la part des radicaux qui institue une Église catholique nationale au détriment de la majorité des catholiques restés fidèles à Rome et perdant de ce fait la jouissance de tout leur édifice religieux. Et le Kulturkampf genevois renforce par ailleurs l'anticatholicisme protestant. C'est aussi durant cette décennie que l'Église nationale poursuit sa transformation administrative lorsque le consistoire, devenu majoritairement libéral, supprime les dernières prérogatives de la Compagnie des Pasteurs, réduit totalement le consistoire à ses fonctions administratives et institue une entière liberté d'enseignement et de prédication. Pour l'Église nationale, le Kulturkampf débouche sur la première tentative de séparation entre l'Église et l'État, qui est toutefois repoussée par le peuple lors de la votation de 1880, dans un élan de nationalisme protestant genevois. La loi sera toutefois votée en 1907, bien que la majorité des membres de l'Église nationale protestante s'y oppose. Elle obtient en revanche, en plus du soutien évident des catholiques romains, celui des protestants évangéliques, membres de l'Église nationale et des Églises libres, qui considèrent que les Églises ont intérêt à se libérer de toute emprise extérieure à elles-mêmes et que la puissance de la foi doit être plus forte que l'aide institutionnelle de l'État. Malgré tout, la séparation provoquera une nouvelle vitalité religieuse, notamment par le renouveau paroissial que vit alors depuis quelques années l'Église nationale. Entre-temps, et dans ce contexte de lutte permanente contre les catholiques, mais surtout contre les dangers du siècle de la déchristianisation de la société, de nombreux protestants genevois consacrent toute leur force à l'évangélisation de la société, à ce que nous pouvons appeler la reconquête chrétienne. L'examen de la pratique religieuse et plus précisément de la fréquentation cultuelle à la fin du XIXe siècle et au tournant du XXe siècle permet d'observer ses principales manifestations et d'en comprendre les enjeux. Durant les décennies 1870-1890, les rapports d'enquête du consistoire dressent année après année un bilan très critique de l'état religieux et moral de la communauté protestante, en dénonçant, mis à part dans quelques paroisses grâce à l'efficacité de leurs pasteurs, la tiédeur des chrétiens, la faible fréquentation cultuelle sur tous les dimanches ordinaires, la désaffection des temples de la part des hommes et de la classe ouvrière, mis à part lors des grandes fêtes chrétiennes, et la concurrence d'activités profanes aux dimanches chrétiens. Inobservation du repos, excursions de plaisir, fêtes publiques, fréquentation des estaminets favorisant l'alcoolisme et le jeu, ainsi que sociétés de tout genre avec leurs réunions, exercices ou sorties. Ces plaintes sont si récurrentes que l'on peut toutefois se demander si elles ne reflètent pas avant tout un état d'esprit démontrant que les pasteurs et les autorités religieuses recherchent constamment à affermir la foi et le zèle de leurs troupeaux et soupirent avec nostalgie en pensant à l'idéal réformateur d'une communauté de fidèles soudée autour de son pasteur et consacrant son dimanche exclusivement à Dieu. La première mesure prise par les autorités ecclésiastiques est de multiplier les exhortations de fidélité au culte public et de lutte contre l'indifférence religieuse. Les autres mesures sont suscitées par une réflexion générale sur les causes de cet abandon, notamment sur le manque d'attrait des cultes, la rigidité de leur fréquence, les déficiences dans l'éducation chrétienne et la tiédeur de la vie paroissiale. Ainsi, le mouvement de diversification des cultes, donc horaires, lieux et contenus, qui avait commencé au milieu du XIXe siècle, se poursuit et s'intensifie notamment avec des services d'évangélisation spécialement destinée à la classe ouvrière et aux hommes, ainsi qu'avec l'introduction d'éléments liturgiques et de services de communion plus fréquents. L'introduction de services de communion plus fréquents ainsi que de services liturgiques sans prédication et faisant une large part à la musique chantée et même écoutée, ce qui est encore très suspect à ce moment-là pour les plus traditionnels, suscite des polémiques au sein de l'Église nationale. La peur d'être envahie et contaminée par des pratiques jugées trop proches du catholicisme rivalise avec celle de perdre une partie des fidèles rejoignant les rangs de l'Église évangélique libre et le constat que ces innovations correspondent à leurs besoins puisque ces services attirent la foule. La lutte contre la sécheresse des cultes a aussi relancé les initiatives d'amélioration du chant sacré et la formation de chœurs paroissiaux et de sociétés de chants sacrés. Ainsi, à partir des années 80, il est de plus en plus fréquent de solliciter un chœur paroissial pour rehausser les cérémonies spéciales. Puis cette pratique se généralise dans chaque paroisse, transformant fondamentalement la relation des fidèles à la musique pendant les cultes et favorisant de surcroît la sociabilité paroissiale. L'encadrement des fidèles, pour éviter la désertion des temples, prend en effet une ampleur particulière dans le cadre du renouveau paroissial du tournant du siècle. L'autonomie accordée aux paroisses par la création en 1803 de conseils de paroisse a été accordée, je cite le mémorial du consistoire, dans l'espoir d'intéresser le troupeau à l'activité de l'Église, de la contrôler et de la vivifier, et de lutter contre l'esprit de détachement des membres de l'Église nationale. C'est aussi lors de cette réorganisation que la ville est divisée en plusieurs paroisses. La fréquence alors du thème des paroisses vivantes exprime l'espoir que par un encadrement paroissial des fidèles dans leur quotidien, le protestantisme connaisse un souffle nouveau. Cette renaissance engendra la création d'associations paroissiales telles que les comités de bienfaisance ou les cercles d'hommes et de journaux tels les messagers paroissiaux. Ce réveil communautaire local peut évidemment aussi être analysé comme une lutte contre l'individualisme d'une société jugée en pleine évolution et une volonté d'affirmer une certaine unité protestante. Rappelons-nous le contexte de la séparation entre l'Église et l'État. Les dimanches paroissiaux, des soirées divertissantes et familières, les thés paroissiaux et autres agapes sont organisés, leur multiplication stimulant l'inauguration de nombreux locaux de paroisse et l'érection de maisons de paroisse. Le renouveau paroissial a donc revitalisé la fréquentation cultuelle, mais aussi le dimanche chrétien. Celui-ci est autant le jour du Seigneur, par le culte, qu'un jour privilégié pour la sociabilité paroissiale, que ce soit par des activités purement divertissantes, mais encadrées par un pasteur, ou par les temps forts de la vie religieuse et de l'Église, avec notamment les assemblées générales des paroisses ou celles de l'Église. L'assemblée générale de l'Église a lieu le dimanche jusqu'à la fin des années 1960. Enfin, par rapport aux améliorations à donner dans l'enseignement religieux, l'accent est mis sur les catéchismes supérieurs afin de conserver les jeunes gens et les jeunes filles dans le giron de l'Église. Au tournant du siècle, le mouvement d'encadrement de la jeunesse n'en est toutefois qu'à ses débuts. Mais ces initiatives montrent la préoccupation de maintenir dans ses rangs tous les confirmés. De même, un enseignement religieux spécialement pour les adultes est mis sur pied afin de regagner les tièdes et les déchristianiser. Dans ce domaine, l'Église nationale et sa mission intérieure est dépassée par les initiatives des églises et comités dissidents, notamment par l'évangélisation populaire, dont l'un de ses membres, Frank Thomas, ancien pasteur de l'Église nationale, attire des foules considérables à ses cultes célébrés au Victoria Hall le dimanche matin et à ses assemblées religieuses durant lesquelles des laïcs prennent la parole. À partir des années 1890, le consistoire concède régulièrement ses temples au pasteur Thomas pour des services d'évangélisation, des conférences religieuses ou des réunions d'appel dont le succès lui permet de fonder en 1899 l'Association chrétienne d'évangélisation. À À la même époque, quelques pasteurs de l'Église nationale organisent aussi des réunions d'appel, souvent le dimanche soir. Mais bien que les autorités religieuses les acceptent avec bienveillance, aucune œuvre particulière dans ce domaine n'est instituée directement par l'Église nationale avant la fin de la Première Guerre mondiale. Les remèdes contre le relâchement de la fréquentation cultuelle ont donc abouti à une rénovation générale des cultes et à une adaptation de l'Église à la modernité. Leur analyse démontre que tout mouvement de réforme au sein de l'Église nationale protestante de Genève, durant la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, est d'abord initié par le corps pastoral, puis est en quelque sorte validé par les autorités ecclésiastiques. Au sein même du consistoire, ce sont d'ailleurs la plupart du temps les pasteurs qui proposent les solutions les plus avant-gardistes et insistent pour que l'Église s'adapte aux évolutions de la société. Baignés dans le quotidien de leur paroisse, ces pasteurs font preuve de davantage de pragmatisme que les laïcs ou que les fougueux philanthropes des associations qui restent souvent emprisonnés dans une vision idéalisée de l'Église et de leurs membres. Les stratégies de l'Église nationale pour pallier au constat récurrent de baisse de la fréquentation cultuelle ont donc été appliquées dans la certitude d'un réveil religieux pourra se produire et sauver le protestantisme et la société des affres de la déchristianisation grâce à une adaptation de l'Église aux besoins des fidèles, à une évangélisation massive de ceux qui tendent le plus à se détacher de la religion, en l'occurrence la classe ouvrière et les hommes de toutes conditions, et à une rénovation des cultes. Celle-ci a comme but autant de les rendre attrayants pour ceux qui seraient attirés par l'offre grandissante de loisirs, dont certains peuvent toutefois être approuvés par les chrétiens, ou pour ceux qui auraient tendance à se laisser envahir par une vie entièrement matérialiste. La rénovation des cultes doit aussi servir à garder attaché à l'Église nationale le noyau dur des fidèles les plus pieux, les convertis. Le caractère multitudiniste de l'Église nationale, allié au souvenir des luttes intestines au protestantisme qui ont ravagé les églises protestantes du XIXe siècle, accentue ainsi, au tournant du siècle, l'impression que si elle veut survivre, elle doit autant neutraliser, quitte à collaborer avec elle, les églises de professants et autres organisations religieuses axées sur l'évangélisation massive, desquelles proviennent de nombreuses innovations culturelles et des méthodes radicales d'évangélisation, que d'anéantir l'indifférence religieuse et l'athéisme. Le caractère particulier de la situation genevoise au début du XXe siècle, donc la séparation de l'Église et l'État, a contribué à ce que cette lutte pour renforcer la fréquentation cultuelle, pour affermir le dimanche chrétien, pour renforcer la vitalité de l'Église et sauvegarder l'avenir du christianisme, ce soit fait dans un élan de renouveau religieux et paroissial et dans un mouvement d'affirmation de l'identité protestante. Donc dans un double mouvement de conquête universaliste, dont la participation au futur mouvement œcuménique est un exemple, et de repli sur soi. Par ailleurs, au niveau individuel, le processus d'adaptation de l'Église a aussi suscité un double mouvement. Alors qu'une tendance à sortir de sa paroisse se manifeste, par exemple en alliant la fréquentation d'un culte à un but de promenade ou en se rendant à une fête d'une société religieuse organisée dans une autre paroisse, le renouveau paroissial a en même temps favorisé un contrôle des fidèles, notamment par les activités divertissantes encadrées telles que les soirées familières du dimanche. En conclusion, nous pouvons affirmer que le bouillonnement du protestantisme genevois à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle se manifeste autant dans le foisonnement des œuvres philanthropiques bâties sur un message chrétien et animées par des protestants engagés dans leur siècle, mais aussi dans la réflexion menée par l'Église nationale pour resserrer les rangs et favoriser la fréquentation cultuelle dans une optique de réveil permanent. Ce bouillonnement se manifeste aussi dans l'adaptation de l'Église à la modernité, dans les nombreuses initiatives d'évangélisation dans des sphères multiples telles que l'Église nationale, les églises libres et diverses associations, ainsi que dans le renouveau de la vie paroissiale. Je vous remercie.
Alors, merci beaucoup, Madame Latour. C'était vraiment passionnant. Et je me dis que la prochaine fois qu'on vous invite, c'est devant la compagnie des pasteurs et des diacres ou devant le consistoire de l'Église protestante. Ça va les décrisper par rapport aux sujets qu'on se pose et qui n'ont décidément rien de nouveau. Je laisse la parole maintenant au chantre de la mémoire d'Henri Dunant à Genève. J'ai nommé Roger Durand, qui est enseignant et historien. Roger a enseigné au cycle d'orientation pendant 34 ans. Il a été doyen aussi du collège de Vuillonnet. Et puis, il passe son temps à fonder et à présider une quantité d'associations et de sociétés ou de fondations. Alors, je cite la société Henri Dunant, la société Gustave Adore, Genève, un lieu pour la paix, Henri Dunant et Gustave Moynier, et enfin, Genève Humanitaire, centre de recherche historique. Roger a un énorme travail d'éditeur, puisqu'il publie toujours les actes des colloques Henri Dunant et des précurseurs de la Croix-Rouge. Il est l'auteur d'une biographie très bien faite sur Henri Dunant et en prépare une autre sur Louis Appiat et Théodore Monnoir. Roger, je te laisse la parole pour nous parler de la foi d'Henri Dunant.
Merci de me donner cette occasion. Donc, c'est un défi de parler à la fois d'Henri Dunant et de Gustave Moynier comme fondateur de la Croix-Rouge et comme chrétien engagé, et d'établir les liens entre ces deux activités absolument fondamentales. Je devrais donc naturellement me limiter, et je me réjouis de vos questions qui permettront de compléter mon exposé. J'essayerai quand même de vous rappeler quelques éléments de la fondation de la Croix-Rouge, parce que ça nous permettra de mieux situer l'ensemble. Nous nous rappelons qu'au milieu du XIXe siècle, d'une part, une certaine sensibilité surgit dans l'opinion publique, chez les décideurs, dans la presse, vis-à-vis du sort pitoyable, souvent scandaleux, des soldats blessés au combat et laissés sans soins, des soldats malades et quasi abandonnés dans des hôpitaux absolument miteux, et des soldats prisonniers qui sont privés de tout lien avec leur famille et qui quasiment cessent d'exister. Certaines tentatives existent, celles par exemple de Florence Nightingale lors de la guerre de Crimée, mais elles se limitent à la Grande-Bretagne. D'autres tentatives, par exemple l'attitude du général Dufour lors de la guerre du Sonderbund, est remarquable quant au respect de l'ennemi vaincu. Mais de nouveau, c'est une action ponctuelle, limitée et dans le temps et dans l'espace. On peut véritablement affirmer que l'invention de la Croix-Rouge internationale, je parle bien d'une invention, c'est-à-dire une création de toute pièce, ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. L'ère humanitaire. Et celle-ci est créée en 18 mois, on peut vraiment l'affirmer ex nihilo, et par quelques personnalités, au premier rang desquelles figurent Henri Dunant et Gustave Moynier. Il faut naturellement ajouter le général Dufour, Louis Appiat, Théodore Monnoir, mais qui sont, on pourrait dire, des auxiliaires, et ensuite un nombre très important de médecins des différentes armées européennes qui seront très motivées par le projet de Dunant et de Moynier. Rappelons quatre dates. En novembre 1862, Henri Dunant publie Un souvenir de Solferino, dans lequel il décrit la bataille. Ensuite, il témoigne de ce qu'il a vu dans la fameuse Chiesa Maggiore, c'est-à-dire l'état d'abandon des soldats blessés. Et puis, dans les dernières pages, il fait quelques propositions qui vont déclencher le mouvement Croix-Rouge. Nous pouvons vraiment dire que ce livre est fondateur et qu'à ce titre-là, Henri Dunant lance une problématique tout à fait nouvelle, et il a quelques références chrétiennes, mais il est surtout, on pourrait dire, humanitaire déjà. Nous savons que la seconde date, c'est le 9 février 1863, lorsque la Société Genevoise d'utilité publique, elle aussi composée exclusivement de protestants, crée la commission qui va devenir le fameux Comité international de la Croix-Rouge. Puis nous avons les 26 et 29 octobre 63, la conférence constitutive du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui a aussi lieu à Genève, au Palais de l'Athénée, et qui est aussi animée par Moignet, par Dufour et par Dunant. Enfin, le 22 août 64, vous le savez, c'est la signature de la fameuse convention de Genève à la salle de l'Alabama, à l'hôtel de Ville. Et nous avons souligné que le rôle d'Henri Dunant est absolument décisif dans les thèmes qu'il a énoncés dans le souvenir de Solferino et qu'il va ensuite diffuser largement, notamment par un sens très aigu des relations publiques et notamment de l'utilisation de la presse. Rappelons qu'il propose qu'on crée des sociétés de secours permanentes. L'adjectif permanent est complètement décisif. Il n'existait pas de société permanente qui, en même temps, s'engageait à soigner tous les blessés. C'est donc le concept de la neutralisation des blessés, et c'est aussi un principe tout à fait nouveau. On a très peu d'autres exemples auparavant. Une autre innovation qui n'est pas très bien connue, c'est l'intervention des civils. Le fait qu'on arrive à imposer aux militaires la présence dans la proximité des champs de bataille de civils qui vont intervenir comme auxiliaires sous les ordres de l'armée naturellement, mais qui vont se mêler aux faits militaires. Ceci est une innovation extrêmement intéressante. C'est celle d'ailleurs qui va le plus entraîner de réticence parmi les militaires, vous le devinez. Autre originalité, l'exigence d'une formation spécifique du personnel sanitaire. Ce point aussi, Dunant le décrit déjà dans le souvenir de Solferino, où il a pu mesurer combien d'âmes avaient été perdues faute d'une compétence, soit de lui, soit des femmes de Castiglione. Et là aussi, il innove et il va ouvrir grand les portes à la création, on pourrait dire, d'un des tout premiers métiers avec formation spécifique où les femmes auront leur place, le métier d'infirmière. Et puis, donc, nous l'avons vu, la demande que tous les blessés soient soignés, non pas en fonction de leur nationalité, mais en fonction de l'état de leur santé. Cette neutralisation s'accompagne d'une autre neutralisation, celle du personnel sanitaire. C'est aussi une innovation complète, c'est-à-dire que tous ceux qui soignent des blessés cessent d'être considérés comme des soldats appartenant à une armée, mais sont simplement, si l'on peut dire, des hommes qui aident d'autres hommes, donc qui ne doivent être ni faits prisonniers, a fortiori, ni attaqués, et laissés en liberté une fois les besoins sanitaires terminés. On ne va pas développer la suite de la participation du Dunant à la fondation de la Croix-Rouge. Elle continue d'être déterminante, mais on peut vraiment dire que là, on a un des deux fondateurs. L'autre fondateur, vous le connaissez, c'est Gustave Moignet. On a eu l'occasion d'essayer de le réhabiliter parce qu'il était sombré dans l'oubli. Et il est docteur en droit. Il est issu d'une famille à la fois très aisée et influente. Son père était conseiller d'État. Et c'est un homme qui est fils unique. Et il est animé d'une volonté très forte de jouer un rôle. Il y a chez Moignet une ambition de se trouver un domaine dans lequel il puisse briller, non seulement au niveau genevois, mais au niveau européen. Et c'est lorsqu'il lit le souvenir de Solferino qu'il a cette sorte de révélation. On a tout à l'heure parlé de conversion dans le réveil. Peut-être que c'est une sorte de conversion à l'humanitaire que Moignet vit en lisant le souvenir de Solferino. Et il est le seul, parmi tous ceux qui ont accusé réception au livre, de proposer une solution. Vous savez la solution, c'est que la Société Genevoise d'Utilité Publique s'occupe de la création de corps d'infirmiers volontaires auxiliaires aux armées en campagne. Vous le savez aussi, cette solution ne va pas aboutir puisque la bienfaisance européenne, en fait, se disloque de sorte que le comité de Genève doit voler de ses propres ailes et convoque la fameuse conférence constitutive au Palais de l'Athénée en octobre. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que les deux hommes se connaissent. Ils ont Moignet de 1826, Dunant de 28. Ils sont jeunes, ils appartiennent à la même génération. presque la même société, mais ils ont de nombreux points communs. Ils se rencontrent, par exemple, dans la société de géographie, la société de lecture et la société des arts. Ils ont donc, d'ailleurs, Genève, encerclée dans ses murailles, fait que tout le monde se connaît. On a même trouvé une relation d'un bal donné précisément dans la demeure actuelle de notre ami Olivier Facio à Céligny, et du nom parle à sa grand-mère d'un moinier d'Eona qui est un homme absolument charmant et avec lequel il a passé toute la soirée entre deux danses, et ils ont même dormi à l'Élysée. Donc manifestement ce sont des intimes, et on peut dire que la réussite de la Croix-Rouge est aussi due au fait qu'on a deux personnalités de premier plan qui ont des comportements très différents, mais un certain nombre d'idéaux communs, et qui, en tout cas, jusqu'à la Convention de Genève, vont travailler la main dans la main, même s'il y a un certain nombre d'ombres au tableau, mais c'est normal quand on a des personnalités géantes. J'en viens maintenant à la seconde partie de mon titre, « Animé d'une foi ardente ». Alors, rappelons tout d'abord que dans leur démarche humanitaire, dans leur démarche de formation, d'invention de la Croix-Rouge, ils ont d'autres motivations que purement spirituelles. Si je prends Henri Dunant, en 1862-63, c'est un homme d'affaires, principalement, qui se heurte à beaucoup de difficultés dans son projet algérien, où il a mis tout son argent, et tout l'argent de ses amis, des siens, etc. Donc, comme moinier, il veut briller, il veut être une sorte de conquérant d'une vallée entière en Algérie, et il est bloqué. Donc, manifestement, son ambition, son appétit de briller, de créer quelque chose, doit se diriger vers un autre élément. Comme moinier, il appartient au clan ou au parti politique des conservateurs à Genève, qui vient d'être battu de façon terrible avec la révolution de 1846. Donc, il n'a aucun avenir politique. Et on peut penser que cette invention de la Croix-Rouge était aussi pour lui l'exutoire ou le lieu d'excellence qu'il ambitionnait. Pour Moigné, c'est la même chose, et c'est même encore plus frappant. Lui mène des études jusqu'à un doctorat en droit à Paris, et ensuite, on le voit, pendant une dizaine d'années, il cherche sa vocation. Dans les assurances, dans la banque, aussi à l'église, comme je crois qu'il a une petite fonction à Saint-Gervais. Mais nulle part, il trouve son créneau. Et la Société Genevoise d'Utilité Publique, aussi honorable soit-elle, lui montre bien les limites de la République de Genève. Donc, lui aussi voit dans ce projet, cette idée de Dunant, l'exutoire, la solution pour vraiment marquer son temps. Je crois que c'est une caractéristique de ces deux hommes, probablement aussi du général Dufour, mais lui, il avait déjà tellement réussi de grandes choses qu'il n'avait plus rien à prouver. Donc, il est important maintenant de survoler les dimensions spirituelles de ces deux hommes pour voir dans quelle mesure leur foi va influencer leur action humanitaire. Alors, la foi de Dunant a été très bien étudiée, notamment par Gabriel Mutzenberg, mais Guy Lecomte a aussi mené des études très intéressantes sur la fondation de l'Union chrétienne de Genève. Vous savez qu'il est formé donc à la société évangélique, à l'oratoire, notamment sous l'influence de sa mère et de sa tante. Il n'est pas inutile de rappeler que nous avons là une communauté, je dirais, ardente, une communauté missionnaire. Alors, Valérie, on a rappelé quelques-uns des éléments, mais ça vaut la peine d'insister. La lecture de la Bible et le refus des traités de théologie, le refus des grandes digressions d'autres personnes, c'est pour nous extrêmement intéressant. C'est vraiment l'homme d'un livre. la Bible. De même, il y a cette exigence du lien direct entre le chrétien et Dieu, sans passer par les intermédiaires. Le rôle du pasteur est un élément mineur. La fondation de l'Union chrétienne de jeunes gens, à cet égard-là, est exemplaire. Il n'y a pas de vieux, si vous permettez, dans cette équipe de jeunes hommes qu'ils ont entre 18 et 24 ans. Ils font toute leur affaire seuls. C'est-à-dire, ils choisissent un lieu, une bibliothèque, ils s'abonnent à des livres, ils font venir des conférenciers, ils gèrent leur moment de prière et de chant, eux seuls, sans intermédiaire. Et ça va nous expliquer une partie du comportement de Dunant par la suite. La confession de foi, la conversion publique, c'est aussi un engagement personnel qui est lourd de signification. Et lorsqu'on voit le jeune Henri Dunant, qui sera secrétaire de cette union, appeler tous les jeunes hommes de France, j'allais dire de Navarre, mais non, de France, d'Italie, il va en Belgique, il va aux Pays-Bas, il y a là un investissement de la personne, une exposition des convictions qui sont extrêmement fortes. On peut dire que Henri Dunant est tout sauf un tiède, n'est-ce pas? Et à cette nécessité de témoigner, on ajoute naturellement l'élément missionnaire. Avec encore une donnée qui me semble extrêmement intéressante, c'est le fait qu'on s'adresse à l'humanité entière, n'est-ce pas ? Lorsqu'il s'agira d'évangéliser, un papou ou un bantou ou un indien de l'Amazonie est tout aussi important qu'un ouvrier du quartier de Saint-Gervais. Et cet universalisme, cette perception que tous les êtres humains sont dignes de recevoir le message de Dieu, naturellement, vous voyez tout de suite la relation avec la neutralisation des personnes, n'est-ce pas ? On neutralise en fait les coloniaux et on les considère comme des êtres humains à part entière. Les circulaires de Dunant sont très connus, où il exhorte les différentes unions qui surgissent en 1852, c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Nîmes en tout cas. Mais on sait moins. Par exemple, sa première publication, elle date de septembre 52. Et c'est un appel public en faveur de protestants persécutés à Florence. Et c'est deux pages, mais qu'il signe et qu'il envoie partout. Pour nous, je lis juste, vous connaissez la condamnation cruelle des Madiai. C'était un couple à Florence qui avait distribué simplement des Nouveaux Testaments en italien et qui avait été emprisonné et condamné, lui, à perpétuité, n'est-ce pas ? La condamnation pour la cause de l'Évangile. Vous connaissez aussi leur conduite toute chrétienne. Il nous a paru qu'en face de ce martyr qui rappelle ceux de l'Église primitive, et ces gens de l'Union chrétienne, ils se considèrent aussi comme de nouveaux chrétiens du premier siècle, n'est-ce pas ? Il y a là une densité dans l'engagement qui est absolument colossale, et qui d'ailleurs menace d'un semblable sort tous nos coreligionnaires en Italie. Une manifestation devait partir de Genève, et Dunant la signe. Cette perception du persécuté est pour nous très intéressante, surtout qu'elle est confirmée à la même année par un voyage que Dunant fait avec quelques amis dans la région de Nîmes. Alors bon, il va stimuler les unions de gauche et de droite, mais il va faire, je crois qu'on peut même le dire dans un temple, il va faire un pèlerinage. Et où est-ce qu'il va faire son pèlerinage ? À la grotte des Brésines, pas très loin d'ailleurs du Kellar, lieu d'origine des Moignés. Or, qu'est-ce qui s'est passé à cette grotte des Brésines en 1685 ? Eh bien, une de ces assemblées de protestants avait été surprise par les dragons de Louis XIV, et avec le schéma traditionnel, les hommes aux galères, les femmes dans des couvents pour celles qui ont le plus de chance, les enfants séparer et installer dans des couvents pour enfants où on va les éduquer dans la bonne religion, et puis le prédicant, il est pendu le lendemain au premier arbre du coin. Et alors, pour nous, ce pèlerinage, Dunant parle dans une de ses lettres, nous montre qu'il y a chez lui une sensibilité causée par des raisons religieuses vis-à-vis du persécuté. Et c'est une dimension qu'on n'a pas tout à fait étudiée assez chez les cinq fondateurs de la Croix-Rouge, parce que si on prend Dufour, il naît en exil pour des raisons politiques, donc ses parents étaient des persécutés politiques, ils sont à Constance. Appia est un fils des vallées vaudoises, j'ai pas besoin de vous dire à quel point cette communauté était persécutée pendant 4 ou 5 siècles. Monoir et Moignet sont des descendants de la troisième génération de réfugiés huguenots qui sont venus, Moignet à Genève, Monoir par Neuchâtel, qui sont arrivés à Genève. Donc il y a chez les cinq fondateurs un vécu profond et immédiat de la persécution, ce qui donne peut-être une clé d'explication à leur sensibilité vis-à-vis d'autres malheureux, c'est-à-dire les soldats abandonnés sur le champ de bataille. Je signale encore que Dunant a un grand engagement tout à fait cohérent avec la société évangélique contre l'esclavage. Et il publie en 63 un ouvrage où il compare l'esclavage chez les musulmans, notamment dans la régence de Tunis, un excellent esclavage, avec l'esclavage épouvantable qui a encore lieu aux États-Unis d'Amérique du Nord, les très chrétiens et très protestants États-Unis d'Amérique. Et son verdict est simplement implacable. Donc on a là aussi un engagement humanitaire en lien direct avec une perspective religieuse. Pour Gustave Moignet, les choses sont un petit peu plus compliquées, mais tout aussi intenses. Son premier livre, en 1859, c'est une biographie biblique de l'apôtre Paul. Il l'a dit à Lausanne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant de voir que son premier ouvrage est un ouvrage théologique. Et nous savons qu'il est membre du consistoire entre 59-67, il est même dans la commission exécutive depuis 1863, il est président de la mission intérieure, cette fameuse mission intérieure dont on nous a parlé tout à l'heure, entre 72 et 74. Il s'occupe aussi de l'œuvre des mariages, c'est une des 500 organisations de l'époque. Il s'agissait de régulariser le statut de jeunes couples qui appartenaient à deux confessions différentes et qui, en fait, n'avaient passé ni devant un pasteur ni devant un curé, en essayant de les faire passer devant un pasteur, l'œuvre des mariages. Il est rédacteur à la Semaine religieuse et pendant de très nombreuses années. Et on sait aussi, ça c'est un détail biographique qu'on n'a pas assez soulevé, Gustave Moignet est marié. Je crois, heureux en couple. Leur union va durer, on fêtera magnifiquement leurs 50 ans de mariage en 1902. Ils ont 5 enfants. Sur les 5, il n'y en a que 2 qui arrivent à l'âge adulte. Les 3 autres, ils meurent soit à la naissance, soit à 8 et 10 ans. Et ce sont des drames terribles. Et nous savons, par exemple, que lors de la mort de leur fils, Adrien André, ils partent, lui et son épouse, à Cannes, où ils vont faire une retraite spirituelle pendant 3 mois. Et de cette retraite spirituelle sortira un manuscrit intitulé « L'enseignement de Jésus-Christ pour la prière ». J'aimerais bien qu'on arrive à publier ce texte. Ce texte est conservé au CICR et il montre une foi, une spiritualité intense. Les historiens classent Moignet dans le clan, si j'ose dire, ou dans le camp de l'Église nationale. C'est pas du tout aussi clair que ça. On a trouvé, par exemple, une lettre où Moignet parle de Dunant et des unions chrétiennes, et il le fait avec avec un petit peu d'ironie, mais on sent qu'il est tout proche de ces milieux-là. Et il ne faut pas s'étonner s'il fonde l'Union nationale évangélique en 70, donc il est vraiment dans le courant évangélique de l'Église nationale. Donc, en résumé, nous pouvons dire que ces deux grands fondateurs ont une vie spirituelle intense, engagée dans l'Église protestante, dans les deux grands courants. J'aimerais insister sur un élément qui me paraît particulièrement important et sur lequel il y a peut-être une confusion. On a dit tout à l'heure que la Croix-Rouge était née à quelques pas de la cathédrale. Moi, je suis forcé de dire non. Henri Dunant appartient à la communauté de l'Oratoire. Et l'Oratoire, ce sont des révoltés. Ce sont des rebelles. Leurs pasteurs, à l'époque, ne peuvent pas prêcher dans les temples. Et ce sentiment à la fois de s'opposer à l'ordre établi, d'avoir une mission qu'on doit communiquer au monde entier, je suis sûr que ça a été pour Dunant des moteurs qui à la fois expliquent la facilité avec laquelle il est allé parler au plus grand de ce monde. Il s'adresse à Napoléon III, il s'adresse au roi de Saxe, il va les voir sans se faire introduire, comme il prie directement à Dieu, sans l'intermédiaire d'un pasteur ou d'une liturgie. Il y a donc dans la dimension spirituelle, en tout cas d'Henri Dunant, je le vois aussi chez Moynier, une force et une conviction qui nous permettent de comprendre pourquoi ces deux hommes ont créé là un mouvement tout à fait nouveau, une problématique nouvelle, parce qu'ils étaient animés d'une foi chrétienne protestante intense. Je vous remercie.
Si vous avez des questions à poser à Valérie Mathion ou à Roger Durand, n'hésitez pas. Je ne sais plus parmi vous avec le micro. Faites-moi signe, au cas où vous auriez des questions de compréhension, d'enrichissement par rapport à leurs apports. Monsieur.
Merci beaucoup. Gabriel Minder de Genève. Monsieur Durand, je crois que ce que vous avez dit est extrêmement important et n'est certainement pas la connaissance claire de la plupart d'entre nous. Mais est-ce que je peux me permettre de vous soumettre que, au fond, la Croix-Rouge est née comme l'Amazone de beaucoup d'affluents importants. Et vous en avez cité deux, j'en vois au fond quatre, peut-être qu'il y en a plus, les deux importants que vous avez cités. Donc il y a d'abord toute la réforme réveil qui vient du XVIe siècle, ensuite il y a la neutralisation que j'apparente à la neutralité qui est née au XVIIe siècle à Münster en 1648 et rénovée en 1815. Ensuite il y a la question de la tolérance qui est née à plusieurs endroits, mais enfin qui était suscitée, comme vous l'avez dit, en 1685, mais aussi par Voltaire, ici à côté de Genève. Et puis finalement, il y a la question de la mondialisation, qui est certainement née au XVIe siècle avec l'invasion espagnole dans les Amériques, et en Algérie en 1830, lorsque la France s'est développée là. Est-ce que ces quatre ont vraiment, extraordinairement, l'Algérie notamment, contribué à faire surgir ce mouvement?
Oui et non. Bien entendu que ces mouvements ont influencé les mentalités au milieu du XIXe siècle, mais il n'en reste pas moins que la recette Croix-Rouge, les ingrédients de la recette Croix-Rouge, ils sont réunis à un moment donné par un homme, puis après une équipe, alors que personne d'autre n'avait pensé les mettre tous ensemble. Vous ne pouvez faire un bon plat que si vous mettez du sel sur vos macaronis, autrement ils ne sont pas bons. Alors, et c'est cette imagination qui pour nous est spécifique, et on peut penser que les convictions religieuses des fondateurs ont joué un très grand rôle, notamment par rapport rapport à la neutralisation. Parce que neutraliser, ça veut dire qu'on considère tout le monde sur le même rang. Il n'y a plus un parti et un autre. Et là, la vision universelle de l'homme comme créature de Dieu, ce rappel de la mission, ce rappel de quasiment l'obligation d'aller évangéliser tout le monde, c'est une application de la neutralité qui ensuite va être étendue aux blessés. J'aurais dû insister sur un fait, c'est que Edunant et Moynier, chrétiens convaincus, j'espère que j'ai été convaincant, en même temps ont très bien compris que leur mouvement devait être confessionnellement complètement neutre. Et vous entendrez Guy tout à l'heure vous parler d'Apia, c'était pas le même tabac.
Merci. Voilà, Guy Lecomte, bienvenue. Et Guy Lecomte, vous êtes professeur au collège. Vous avez été l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire de Genève et du canton de Vaud notamment. Vous êtes très spécialisé de toute cette période et de cette géographie. Alors merci d'être parmi nous et je vous cède la parole.
Merci. Alors, le titre de l'exposé, c'est Louis Apia, chirurgien de guerre. Ah oui, chirurgien de guerre, philanthrope et témoin du Christ. Évidemment, c'est un titre qu'on a choisi pour essayer de montrer un peu l'étendue du personnage. En refaisant cet exposé, je me suis posé beaucoup de questions. Parce qu'on essaye actuellement, on est une équipe, on essaye de renouveler un peu la vision qu'on peut avoir d'Apia. Et je me suis mis en tête de faire une étude complète des mentions qu'on trouvait de lui dans la presse. C'est évidemment possible aujourd'hui puisque beaucoup de journaux genevois et vaudois, où Apia apparaît assez souvent, ont été numérisés. Bien entendu, on fait ce genre d'études, non pas pour avoir une vision complète du personnage, mais pour savoir aussi où il faut le chercher. C'est-à-dire que quand vous apprenez qu'Apia est dans telle ou telle société, vous devez vous demander est-ce qu'il y a des archives, etc., est-ce qu'on pourra renouveler un petit peu le sujet. Et puis, il y a une autre chose qui me frappe de plus en plus, c'est qu'Apia est un personnage... Bon, il a une voix. Seulement, il arrive à Genève une première fois en 1849, et puis il s'installe, semble-t-il, après la mort de son père, il vient avec sa mère, il s'installe. Il s'installe d'abord chez un cousin, une relation, un contamine. Il se marie en 1853, se fait homme avec une genevoise, et il devient genevois en 1860. Ce qui fait qu'au moment où commence pour lui cette aventure qui mènera à la création de la Croix-Rouge, eh bien, Apia n'est pas encore genevois. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Alors, d'abord, c'est un vaudois du Piémont, on y reviendra, parce que ça a une certaine importance, mais c'est un vaudois du Piémont qui a poussé hors du terreau piémontais, puisque son père a été pasteur à Hanau en Hesse. Et dans l'une des paroisses vaudoises extérieures à l'église. Ça a été une chance, parce qu'il faut bien reconnaître que l'église vaudoise du Piémont, avec ses 9 paroisses misérables, et ses cercles de pasteurs qui allaient d'une paroisse à l'autre, on passait dans Grogne à Saint-Jean, à Prali, etc., on montait, puis on finissait par redescendre du côté de la tour. Ces paroisses extérieures, eh ben, justement, elles étaient à l'extérieur. Et alors, la culture d'Apia, c'est une culture avant tout française. Son père faisait le culte en français, et non pas en patois vaudois, ce qui est un patois provençal. Hein. Donc, on faisait le culte en français, ah non. Et puis, il a évidemment une culture allemande. J'ajouterais qu'on s'est posé la question de savoir s'il savait l'italien. J'ai eu quelques débats là-dessus avec Mme Balesio. Il semble quand même qu'il savait l'italien ou qu'il l'a appris à Genève. J'ai retrouvé quelques mentions de professeurs d'italien qui se recommandent de M. Apia quand il cherche des leçons. Donc il avait quand même dû aussi essayer d'apprendre l'italien. Alors, donc un personnage qui est complexe, qui est cosmopolite. Hein, c'est peut-être ça qui le frappe. J'avais pensé une fois, on pourrait écrire un article pour embêter les gens, pour les provoquer, l'allemand de la Croix-Rouge. Mais je crois que c'est pas si faux que ça, parce que Nous verrons, enfin on n'aura peut-être pas le temps de voir, mais nous verrons que il a souvent suivi les armées allemandes, et c'était par, patriotisme germaniste. Il dit, on envoie quelqu'un d'autre dans l'autre camp, et lui, il suit l'armée allemande. Bien, ceci étant dit et posé, il arrive donc à Genève en 1850, 49-50, et puis il apparaît dans les journaux, alors là c'est une chose assez curieuse, il apparaît en 1851, le journal de Genève rapporte une expérience qui a eu lieu le 24 décembre 1850. Un groupe d'une vingtaine, 25 jeunes voix dont on donne la liste, s'était réuni pour vérifier les assertions d'une nommée Prudence Bernard, qui en somnambulisme prétendait pouvoir avoir quelques pouvoirs de télécommunication et également pouvoir influencer sur son rythme cardiaque. Et ce jour-là, deux hommes qui vont beaucoup travailler ensemble, le docteur Théodore Monnoir et le docteur Appia, vérifient par l'expérience les dires de cette Prudence Bernard. J'ajoute que dans la société, il y a un Dunan anonyme. Ça serait quand même drôle. Ça serait quand même drôle. Mais peut-être qu'il ne faut pas suivre cette piste. Appia est en vaudois du Piémont. J'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire au point de vue de sa foi. Mais je vais prendre le sujet à l'envers. Il est très souvent cité dans le journal de Genève. Et je vais vous donner les quatre dernières mentions d'Appia dans le journal de Genève. Assez souvent, le journal de Genève est repris par la Gazette de Lausanne ou par Nouvelliste Vaudois. Ça, c'est des choses que j'ai pu vérifier. C'est surtout quand il s'agit, évidemment, de l'action de la Croix-Rouge. Le 24 février 1897, Appia est signalé comme prenant la parole à l'Assemblée de la Société d'utilité publique de Genève. C'est la dernière fois qu'il est cité à l'Assemblée de cette société. Donc je vous fais un petit coup des dernières fois. On y a parlé de l'assurance chômage. Il a trouvé que c'était une très bonne idée. Le 17 mars 1897, il est cité, pour la dernière fois, il fait une causerie à la rue Séard, à l'Union des femmes, et il parle des gardes malades et des infirmières. Le 4 avril, il est pour la dernière fois cité, parce qu'elles sont en général annoncées dans le journal de Genève, à la réunion du dimanche. Il avait fondé une œuvre du dimanche, une salle du dimanche, et il y séançait assez souvent, à tel point que dans ces dernières années, on ne donnait même plus le sujet sur lequel il intervenait. On disait, il y a le docteur Appia qui fait la séance à la salle du dimanche. Et c'est la dernière fois qu'on en parle. Et puis, le 20 décembre 1897, on signale qu'il a fait une intéressante contribution dans l'almanach du foyer sur l'hygiène. C'est un de ses grands thèmes. Tout au long de sa vie, il s'est préoccupé de promouvoir les règles d'hygiène. Et vous savez qu'il meurt le 1er mars à Genève. Je pense d'ailleurs que cette contribution du docteur Appia avait été écrite plus tôt dans l'année, puis c'est un almanach, et qu'au fond, ces quelques mentions font bien sentir une sorte de fin de carrière d'un homme qui a été partout présent et qui maintenant est accablé par la maladie et qui s'approche de sa fin. Alors il y a des choses un petit peu bizarres qui circulent sur ces derniers jours, où paraît-il, il adorait montrer toutes les médailles qu'il avait reçues à cause de la Croix-Rouge quand on allait le voir. Bon. C'est clair qu'Appia n'était pas un homme sans défaut. C'est clair que c'est un individu complexe. C'est clair aussi que il a beaucoup aimé les honneurs, Il aimait beaucoup. On a vu ça, on voit ça dans sa mission au Danemark. Il a été très flatté d'être reçu par le général Wrangel. Il a été très flatté d'être présenté au prince Frédéric Charles. Il a adoré recevoir des médailles danoises. Il a, paraît-il, demandé au général Dufour de le pousser pour avoir la Légion d'honneur, etc. Et il s'est fait photographier en 1890 avec un paletot sur lequel il avait mis toutes ses médailles. Et même, il avait commencé autrement. Il s'était fait faire, dit une de ses biographes, une chevalière. Et il avait pris les armes des Appiats du Piémont, mais des Appiats catholiques, qui avait une couronne de vicomte, et il pensait que sa branche, c'est complètement faux, j'ai vérifié, bien sûr, mais il pensait que sa branche descendait de ses vicomtes Appiats, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le côté un petit peu, le personnage qui veut être reconnu. Et donc c'est paradoxal chez lui, parce que ça se double d'une certaine, comment dirais-je, une modestie personnelle qui doit être réelle. Quand il parle de lui, il dit, au fond, je suis pas grand-chose, souvent, face à Dieu. Pour en donner deux, trois exemples. Alors, ce cosmopolite, je crois qu'il faut quand même dire une chose, on le réduit, quand il fait des études de médecine extrêmement brillantes, hein, à Francfort-sur-le-Main, il a été reçu summa cum laude, on le réduit à en chirurgien militaire. Alors c'est clair, il a fait de la chirurgie, c'est clair qu'il a été chirurgien militaire, mais c'est clair aussi que c'était un excellent médecin, et qui s'intéressait à tous les domaines de la médecine, et au cours de sa vie, il a donné des conférences sur l'hygiène, sur la périculture, il a donné des conférences sur les soins à donner aux yeux, il s'est intéressé à tout, il a fait des conférences aussi pour vulgariser les idées de Pasteur, et voir comment on pouvait utiliser en médecine ces idées de Pasteur. C'est donc un homme qui s'est toujours tenu au courant dans sa branche de prédilection, qui était la médecine. Et indiscutablement, enfin d'après ce que j'en ai pu voir, c'est un surdoué. C'est-à-dire, il a fait des études vite, et puis il a travaillé toute sa vie, et il faut bien dire, c'est un homme qui a beaucoup fait. Alors, dès 1851, on voit qu'il tient une consultation par semaine à Contamine, c'est pas beaucoup, mais il faut expliquer que les médecins à l'époque, ils allaient voir le malade et ils n'attendaient pas. Et puis, il s'embrigade tout de suite dans des options comme le dispensaire, où il va travailler pour les enfants malades, il se fera pas payer. Et dès qu'il est marié, il augmente le nombre de ses consultations. Et chaque fois qu'il rentre de mission, il met dans le journal de Genève des annonces pour annoncer qu'il est rentré et qu'il reprend ses consultations. Donc, il ne s'agit pas d'un homme qui aurait eu, je pense, quelques moyens et qui aurait pu se permettre. Il peut aller aux conférences de la Croix-Rouge, etc. Mais il ne s'agit pas d'un homme qui arrête son activité. C'est un homme qui travaille. Parce que, en tant que chrétien, protestant, évangélique, et vaudois, il croit certainement à la valeur du travail. C'est un homme qui travaille, il essaye d'orienter son activité vers les autres, et il essaye aussi d'être le plus utile possible. Ce qui est assez frappant, n'est-ce pas ? C'est qu'une fois qu'il a, avec les autres, participé à l'aventure de la Croix-Rouge, avec Moignet et donc, lui, il va rester, et Moignet aussi, à la société d'utilité publique. Et ils y resteront des décennies. Et ils vont s'occuper de construire des écoles, etc. Ils n'arrêtent pas. La Croix-Rouge, c'est une activité parmi d'autres. C'est évidemment celle qui, pour lui, a le plus d'importance. Et chose curieuse, c'est finalement Cassétard qui va en parler. C'est en 1893, et nous avons avec Roger eu la chance de retrouver cette conférence, qui va prononcer une conférence organisée sur la fondation de la Croix-Rouge. J'ajouterai que si Moignet s'est probablement battu pour savoir qui avait fondé la Croix-Rouge, et si Dunan s'est battu pour expliquer qui avait fondé la Croix-Rouge, Appiat ne se bat pas. Appiat est très sûr qu'il en a fait autant que les deux autres dans la fondation de la Croix-Rouge. Il exprime ça d'une façon assez simple. Monsieur Henri Dunant a publié un livre sur le souvenir de Solferino. J'avais auparavant publié un livre qui s'appelle « Le chirurgien à l'ambulance », etc., etc. Or, il ne faut pas oublier que « Le chirurgien à l'ambulance » a été traduit en anglais l'année de sa parution, en 1859, probablement par Monnoir, et que la même année, il a été traduit en suédois. Ça me semblait bizarre. Il y a une sorte d'intelligentsia qui, je ne veux pas dire se repaissait de ce genre d'écrit, mais qui faisait la publicité pour ce genre d'écrit. Donc au fond, un homme qui sait qu'il a fait quelque chose, qui a consacré sa vie à une œuvre, mais qui n'a pas consacré sa vie qu'à ça. J'ajoute que quand on va étudier un homme dans les journaux, on sait très bien qu'on n'a que l'écume de sa carrière. Ce qui arrive jusque dans les journaux. Alors, quand vous étudiez Appia, il y a certaines fois où il y a des mentions qui concernent plutôt la messagerie de sa belle famille qui est installée chez lui dès 1853. Et puis, il y en a d'autres qui n'apparaissent jamais. Ce n'est que dans son article nécrologique, publié dans le journal de Genève, le 1er mars ou 2 mars, qu'on apprend qu'Appia est depuis 35 ans membre du comité de l'église évangélique. Non. Jamais une seule mention de cette activité n'est faite dans les journaux. Or, si nous faisons une soustraction, ce que j'arrive des fois à faire, 35 ans, ça nous ramène en 1863, et en 1863, le docteur Appia est occupé à autre chose. Il s'occupe, entre autres, de fonder la Croix-Rouge, il y a les conférences préparatoires, etc. Mais c'est un aspect de son activité qui est parfaitement laissé de côté. On comprend très bien pourquoi Appia est à la société évangélique. Parce qu'on sait très bien que sa famille était une famille d'une très grande piété. Sa mère a laissé dans le souvenir de ses enfants le souvenir d'une femme admirable. Ils s'en sont occupés. Et Georges, le frère, aidé de ses frères et sœurs, mais c'est surtout Georges, a publié sur sa maman un petit livre au moment où elle décède, n'est-ce pas, et souvenir de Madame Caroline Appia, née de Volet, veuve du pasteur Appia, hein, expliquant combien cette femme était admirable, combien elle avait influencé ses enfants, etc. Donc là, le problème de la foi d'Appia n'a pas à se poser. D'ailleurs, c'est un problème que lui-même se pose assez peu. Alors évidemment, on pourrait suivre sa carrière de bout en bout. J'avais un peu prévu de le faire, mais le temps nous étant compté, je vais m'arrêter à un élément seulement de cette carrière. C'est que c'est la visite au camp de Garibaldi. Vous savez qu'en 1864, Appia est parti, délégué de la Croix-Rouge, à la guerre du Danemark, et il a suivi le camp germano-autrichien. Ça a été assez mal compris de certains en Suisse, parce que la Suisse romande avait pris parti pour le Danemark, le petit contre les gros. Bon. Ensuite, en 1866, le comité de la Croix-Rouge ne le délègue pas en Italie, c'est donc la fameuse guerre de la Prusse et de l'Italie qui va permettre à l'Italie d'arracher la Vénétie à l'Autriche, et il se fait déléguer par le comité de Milan. Comité de Milan, et il crée à cette occasion ce qu'on a appelé l'ambulance vaudoise, c'est-à-dire qu'avec son frère Georges, qui est pratiquement son âme damnée, si j'ose dire, ou son âme bénie, parce que l'influence de Georges sur Louis devrait être étudiée. Georges était son cadet, mais Louis avait pour lui d'abord une amitié sincère, et puis surtout, je crois, un peu d'admiration aussi. Mais je vais finir. Et alors, Appia part au camp de Garibaldi. Il est piémontais après tout. Et s'il va chez Garibaldi, c'est que Garibaldi est républicain, parce que les Vaudois sont républicains. Ils ont été émancipés par un roi, mais ils sont républicains. Et au fond, à cette ambulance vaudoise, eh bien, il va pour la première fois se retrouver au front. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Il est le seul, à part le général Dufour, qui pour d'autres raisons, qui ce n'est pas à la même place, des fondateurs de la Croix-Rouge, qui a été une fois au front. En 1859, Il était derrière, dans les hôpitaux derrière, il est arrivé après. En 1870, pendant la guerre des duchés, il était derrière. Bon, bien sûr, il a vu les blessés, il a soigné des blessés. En 1870, il était dans une ambulance à l'arrière. Mais évidemment, Garibaldi, il va se trouver dans la seule armée italienne qui va gagner une bataille, c'est le Brezzaca, et il va se trouver au front. Et c'est pas la même chose. Et alors, bon, je vous pourrais raconter la bataille, mais je veux simplement donner deux, trois citations avec lesquelles je termine mon exposé sur ce que pense Appia au moment où il est face à ses malades. Il dit ceci, quand il parle en 93, « Je me trouve d'emblée dans un certain embarras causé par l'obligation de parler de ma personne. » Je ne puis autrement puisque ma personne a été dès l'origine de l'œuvre de secours aux blessés et pendant environ 30 années consécutives mêlée aux principaux événements. Si vous le voulez bien, il sera bien entendu qu'en parlant de moi, je m'efforcerai de le faire comme d'une troisième et que l'amour-propre ne doit y entrer pour rien. Je suis en effet très loin de croire au mérite et ça quand même excessivement réformé. Si nous avons pu faire quelque chose d'utile, nous le devons surtout aux circonstances favorables dirigées par la bonne providence. Et puis, sur le champ de bataille, l'influence religieuse ne peut être directe au moment de l'action. L'important, c'est de se tenir soi-même en présence de Dieu afin de conserver le calme nécessaire et une abnégation réelle, pratique et affectueuse. Puis à ce moment-là, il dit, cependant, mon frère qui était avec moi, et il explique comment son frère, dans cette fameuse mission de 1866, distribuait avec son aval des Bibles et un catéchisme aux soldats. Je vais terminer là-dessus. Il y a une certaine ambivalence. Je crois qu'Appia avait compris aussi bien que les autres que la Croix-Rouge devait être un mouvement qui ne soit pas confessionnel en tant qu'institution, mais lui, alors, il croyait quand même qu'à un certain moment, il y a un moment où on ne peut plus rien faire d'autre que de prier avec celui qui part. Voilà, je termine maintenant.
Et sans transition, nous accueillons Madame Marie-Pont, qui va nous parler de la foi de Gustave Adore, la quatrième.
Gustave Adore ne fait pas partie des fondateurs de la première heure. Gustave Adore a été appelé en 1870 par son oncle Auguste Gustave Moynier au comité international. Frédéric Jardin, qui était le gendre de Gustave Adore, a publié une biographie de son beau-père dans laquelle il relève que Gustave Adore a une jeune activité maîtresse dans sa vie, la Croix-Rouge et la politique. Donc, Gustave Adore entre en 1870 au comité international à l'âge de 25 ans. Il en est secrétaire pendant près de 20 ans. Et en 1912, au décès de Gustave Moynier, il lui succède à la présidence. Dès lors, il s'investit complètement dans l'œuvre de la Croix-Rouge, élargissant les activités du CICR, qui, nous l'avons vu, ne concernait au départ que les militaires blessés. Et grâce à l'action de Gustave Adore, le comité international sera amené à s'occuper de la protection des prisonniers de guerre. Et au début de la Première Guerre mondiale, il prend l'initiative de fonder l'Agence internationale des prisonniers de guerre qui va exiger une énorme organisation et dont les services seront unanimement reconnus par les belligérants. Après la guerre, Gustave Adore poursuit une activité inlassable pour faire reconnaître l'autorité du CICR jusqu'à son décès en 1928. À côté de son activité humanitaire, Gustave Adore a fait une brillante carrière politique. Ce double engagement découle certainement de son tempérament, mais aussi d'un esprit de service reposant sur une foi profonde. Conscient d'appartenir à un milieu privilégié, il se doit de consacrer un peu de son temps et de ses talents au bien commun. En effet, Gustave Adore, qui a été élevé dans la tradition réformée par des parents cultivés, intelligents et croyants, est à son tour un protestant profondément attaché à son Église. Les lettres qu'il adresse tout au long de son existence à sa fille Germaine, puis à son gendre Frédéric Barbet, nous livre des témoignages souvent émouvants de sa foi et de ses convictions religieuses. Comme député au Grand Conseil Genevois, il fait toujours preuve de modération dans les débats qui concernent les questions religieuses. Il est intéressant à ce propos d'évoquer ses prises de position qui l'ont conduit à faire campagne pour la séparation de l'Église et de l'État, dont nous avons parlé tout à l'heure. Gustave Adore est donc un protestant pratiquant. Il va régulièrement au culte, même lorsqu'il est en voyage, assiste à des conférences religieuses et en prononce même une sur Calvin, ce qui l'angoisse beaucoup. Nombreuses sont ses lettres qui témoignent de sa reconnaissance pour les grâces et le bonheur que le Seigneur lui accorde au travers de sa famille, à laquelle il est extrêmement attaché. Au moment où sa fille Germaine fête ses 16 ans, Gustave Adore lui adresse de Berne, où il siège au Conseil national, une lettre d'une sincérité touchante. Je cite, « 16 ans, l'âge de l'instruction religieuse, belle année entre toutes, où le cœur s'ouvre, se développe, où les résolutions se forment et se nourrissent, où Dieu, par sa bonté, mettra sur toi une forte empreinte qui t'accompagnera toute ta vie, où tu apprendras à le mieux connaître pour le mieux aimer et le mieux servir, ce bon Dieu pour lequel tu dois avoir déjà tant de reconnaissance pour toutes les grâces qu'il t'a accordées, pour toutes les bénédictions dont il t'a enveloppé. Que Dieu te donne, ma chère enfant, d'apprendre que c'est à son service qu'on trouve les joies les plus pures, sans que ce service, qui doit passer avant tout et qui doit être la principale chose de la vie, exclut les joies, les devoirs et le bonheur de la vie de famille. Une année plus tard, cette fin de l'instruction religieuse donne l'occasion à Gustave Adore d'écrire à sa fille une nouvelle missive, toujours de Berne, qui contient une impressionnante déclaration de foi. C'est une belle année, ma chérie, que celle dans laquelle tu entres. L'année où, après avoir terminé son instruction religieuse, avoir acquis de solides et fortes convictions personnelles, on fait librement son entrée dans l'Église. Puissent les émotions salutaires que tu ressentiras t'accompagner et se fortifier pendant toute ta vie. Rien ne vaut ni ne remplace dans la vie la paix intérieure. Cette voix de la conscience qui, parlant au nom de Dieu, nous montre le chemin à suivre et nous engage à conformer notre vie tout entière à la volonté de ce bon Père céleste qui, quelles que soient les circonstances par lesquelles il juge bon de nous faire passer, est toujours une volonté d'amour à notre égard. Elle est belle, la vie de la jeune fille qui, dans la société comme dans la famille, cherche sous le regard de Dieu à régler sa conduite, son activité sur les principes de l'Évangile. C'est la vie que je te souhaite du fond du cœur de choisir, parce que c'est la seule qui procure ce vrai bonheur que je te souhaite de tout mon cœur, demandant à Dieu de t'en faire goûter tous les jours davantage le prix et la valeur. La foi de Gustave Adore ne faiblit pas dans les moments difficiles. Même s'il est particulièrement affecté par les malheurs qui touchent ses filles, il essaie de les consoler en se plaçant sous la volonté divine. Je cite, « Les voies de Dieu sont décidément pas les nôtres », écrit-il à propos de la maladie de l'un de ses gendres. Lorsque l'un de ses petits-fils disparaît pendant quelques jours, plongeant sa famille dans l'angoisse, Gustave Adore écrit « L'angoissante et douloureuse semaine que vous venez de traverser, que j'ai vécue avec vous à distance, est bien propre à nous rappeler que nous sommes peu maîtres de nos destinées et qu'il y a au-dessus de nous celui qui veut notre vrai bonheur, quand même nous ne comprenons pas les moyens qu'il emploie. Les épreuves doivent nous rapprocher toujours plus de celui qui veut que nous puissions lui dire en toute sincérité « Ta volonté et non la mienne ». Il a exaucé vos prières, donc le Fils a été retrouvé. Soyons-en tous reconnaissants et toujours plus confiants en son amour. Au moment où la santé de sa femme s'aggrave et qu'elle refuse de se soigner, on sent Gustave Adore désorienté. Il écrit à sa fille « L'avenir est encore bien peu clair à mes yeux, il faut demander à Dieu du pourvoir. » Après le décès de sa femme, Alice Adore, donc le 6 mars 1908, il constate combien il se sent soutenu par l'affection de ses filles. Je cite, Il semble, dans les tristes journées que nous traversons, que nous ayons plus que jamais besoin de nous aimer et de demander à Dieu sa protection sur nos bien-aimés. Pour moi, l'affection dont je suis entourée par mes enfants est une des joies de ma vie. Cette affection n'est plus nécessaire que jamais. Il est tout de même très angoissé en mars 1922 lorsqu'il apprend qu'il doit se faire opérer de la prostate, qui était à l'époque une opération compliquée. Et là, je cite de nouveau. « Il faut se rappeler que c'est Dieu qui dispose et s'en remettre avec confiance entre ses mains. Enfin, je veux accepter, tâcher d'avoir bon courage et me dire que tout ce qui m'arrive de si inattendu est très certainement pour mon vrai Dieu. Je ne dirai pas la vérité en laissant supposer que tout cela ne m'attriste pas. C'est une véritable et sérieuse épreuve, mais je me sens soutenue par vos chaudes affections et vos prières. À la garde de Dieu. » La foi de Gustave Adore apparaît donc comme une foi solide et confiante qui accepte les coups du sort et s'en remet à la volonté divine. Dans ses lettres, il invoque constamment la bénédiction de Dieu pour ses enfants et le remercie de leur présence et de leur affection. Dans son engagement public, Gustave Adore a toujours manifesté ses convictions pour un protestantisme ouvert et tolérant. Sans retracer sa carrière politique qui est bien connue, il convient de souligner l'action pacificatrice qu'il a menée lors des luttes religieuses qui ont agité la République sous le régime radical d'Antoine Carteret, élu au Conseil d'État dès 1870. Antoine Carteret, à l'instar de nombreux protestants, redoutait que l'afflux de populations catholiques ne fasse perdre à Genève son identité de Rome protestant. Anticlérical, il se méfiait des ultramontains, représenté par Gaspard Mermillot, curé de Genève, qui cherchait de manière détournée à rétablir un évêché dans la cité de Calvin. Le dogme de l'infaillibilité pontificale, promulgué par le pape Pie IX en 1870, avait encore exacerbé l'animosité contre les catholiques. En 1873, pratiquant la manière forte, Carteret fait expulser Mgr Mermillot par la Confédération et fait voter des lois qui réorganisent le culte catholique. Les prêtres se voient imposer un serment d'obéissance. Bien entendu, ils refusent de se plier et le conflit aboutit à une scission de l'Église catholique entre, d'une part, l'Église catholique romaine, toujours soumise à Rome, mais rejetée par l'État, et d'autre part, l'Église catholique nationale, qui accepte la nouvelle organisation et à laquelle sont remises les églises du canton qui ont été confisquées aux catholiques romains. Cette manière forte et les excès qu'elle provoque heurtent de nombreux citoyens, tant parmi les catholiques que parmi les protestants modérés. Dès qu'Antoine Carteret perd de son influence au Conseil d'État, les passions se calment, mais c'est après le décès de Carteret en 1889, lorsque Gustave Adore devient chef du gouvernement en 1892, qu'une véritable politique de conciliation est instaurée. Quand il était jeune député, Gustave Adore s'était toujours opposé à la politique de Carteret. En tant qu'avocat, il avait même pris la défense des catholiques romains dans l'affaire de l'église Notre-Dame en 1875, mais sans succès. Sous la présidence d'Adore au Conseil d'État, les églises catholiques confisquées sont peu à peu restituées à leurs propriétaires. Grâce à ses efforts et à ceux du successeur de Mgr Mermillot, l'abbé Eugène Carry, les luttes confessionnelles s'apaisent durablement. Cependant, la question du culte catholique romain n'est pas réglée pour autant, car les lois de 1873 n'ont pas été abolies. Les catholiques romains se plaignent de l'inégalité dont ils sont victimes, ne recevant aucune subvention de l'État, contrairement aux protestants et aux catholiques nationaux. Aux yeux de nombreux Genevois, la seule solution réside dans la séparation de l'Église et de l'État. L'idée de la séparation avait déjà été évoquée à plusieurs reprises. En 1878, le radical Henri Fazi avait soumis un texte visant à la suppression du budget des cultes. Gustave Adore, qui était alors député, avait été chargé par son parti de plaider le rejet de cette loi en mai 1880. À cette époque, il estimait que la séparation allait créer autant de problèmes qu'elle n'en résoudrait, et que, je cite, l'opinion publique n'était pas prête à renoncer à des liens qui avaient si longtemps constitué l'existence même de la nationalité genevoise. Au moment du vote populaire, le projet Fazi avait été balayé à une majorité écrasante au terme d'une campagne véhémente et passionnée pendant laquelle les ténors de l'Église nationale protestante, associés au parti radical mené par Carteret et Georges Mabon, avaient défendu la vieille Église de Genève menacée de destruction. La question avait été remise sur le tapis en 1897, puis en 1905, mais sans succès. En octobre 1906, Henri Fasi présente un nouveau projet visant à placer tous les cultes à égalité devant la loi. Le texte est discuté au sein de nombreuses instances et fait l'objet de plusieurs débats au Grand Conseil, au cours desquels Gustave Adolphe s'exprime sur la question. Il avait déjà admis en 1897 que son jugement avait changé depuis 1880 et qu'il était désormais favorable à la séparation de l'Église et de l'État. En mars 1907, Gustave Adolphe prononce un discours au Grand Conseil dans lequel il explique son opposition au principe des Églises nationales. Et là, je cite donc le débat au Grand Conseil. « Je crois que l'État ne sera vraiment laïque que lorsqu'il ne s'occupera plus d'organiser les Églises et lorsqu'il ne déterminera plus de lui-même les conditions auxquelles doivent se soumettre les membres qui font partie de ces Églises. C'est une thèse que nous avons un peu de peine à admettre à Genève. Cela tient à tous nos antécédents, à tout le passé de Genève, à toute cette période glorieuse de la République de Genève pendant laquelle l'Église et l'État ont été absolument confondus, où Genève était la Rome protestante, la ville du refuge, largement ouverte à tous ceux qui étaient expulsés de France ou d'ailleurs pour des motifs de conviction religieuse et qui venaient trouver chez nous un abri sûr pour l'exercice de leur foi et de leur croyance. À ces amis protestants qui pleurent leur vieille Église nationale, Gustave Adolphe répond que les temps changent. Et là, je cite de nouveau une partie des débats. Autant je serai le dernier à tourner le dos à tout ce qui a fait la gloire de Genève dans le passé, autant je crois que nous ne pouvons pas vivre uniquement de souvenirs et que nous devons nous placer en face des circonstances de l'heure actuelle et ouvrir les yeux pour voir les différences qui existent entre la Genève du XXe siècle et la Genève du XVIe et du XVIIe siècle. À partir de 1815, tout un passé glorieux a pris fin pour Genève. La vieille République de Genève a disparu. Nous sommes devenus un canton mixte, un canton suisse, un canton largement ouvert à toutes les confessions religieuses. Cette prise de position ne signifie pas que Gustave Adolphe se désintéresse de la religion. Au contraire, il affiche publiquement au cours des débats l'importance qu'il lui attache dans la société. À cet égard, en 1893, il avait déjà pris défense des diaconesses qui travaillaient à l'hôpital en but aux radicaux qui s'opposaient à leur présence au nom de la laïcité. Il admirait leur esprit de dévouement. Là, je cite de nouveau une phrase de Gustave Adolphe. Je crois que les sentiments religieux sont nécessaires à la société, qu'ils sont nécessaires à sa bonne marche, et j'appelle de tous mes voeux leur développement toujours plus grand dans nos populations, étant convaincu que plus ils seront vivaces parmi nous, plus nous nous trouverons sur un terrain favorable à l'étude et à la solution des questions économiques et sociales qui, suivant moi, sont les plus difficiles à résoudre en dehors de ces principes fondamentaux de bienveillance et de bonne volonté entre les hommes que prêche et annonce la religion. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui du séisme qui a provoqué cette votation parmi les protestants genevois qui étaient profondément divisés. La question de la séparation, comme on disait, agite les esprits pendant de longs mois. Le parti démocratique auquel appartient Gustave Adolphe ne donne pas de consigne de vote tant il est partagé. Il en va de même pour l'Église. Le consistoire recommande le refus, mais en même temps, 17 pasteurs en charge signent un manifeste en faveur du texte. Relevons parmi les signataires le gendre de Gustave Adolphe, le pasteur Jacques Martin, et son père, le pasteur Charles Martin. Pour sa part, Gustave Adolphe reste ferme dans ses convictions qui vont à l'encontre de celles de nombreux de ses amis. Contre toute attente, la loi est acceptée le 30 juin 1907 à une courte majorité et avec une participation de 50%. Bon nombre de protestants sont consternés par ce résultat qui fait perdre sa situation privilégiée à leur Église nationale. Gustave Adolphe en est tout aussi remué, ainsi qu'il en fait part à son gendre, Frédéric Barbet. Nous avons traversé des semaines émouvantes. Le vote de dimanche est certainement un événement historique Et à côté du sentiment très net d'avoir fait un profond chagrin à beaucoup d'excellents amis, nous sentons, nous les séparatistes, la responsabilité qui nous incombe. Il faudra édifier sur de bonnes bases. Heureusement, après 48 heures de stupeur, de douleur et de colère, on revient à une plus juste compréhension des choses. De part et d'autre, le meilleur esprit règne maintenant, à de rares exceptions près. Il est temps que chacun prenne des vacances et que les nerfs se calment. Malgré le ton positif de la lettre, le meilleur esprit ne règne pas complètement, puisque Gustave Adolphe reçoit des lettres anonymes qui l'affectent beaucoup et dont il fait part à Frédéric Barbet de Zurich. D'aimables correspondants anonymes ont tellement accusé ces jours-ci d'être vendus à la France ou à Rome, traîtres à la patrie, que j'ai senti le besoin de venir retremper mon patriotisme au tir fédéral en prenant part à la journée officielle. Je ne le regrette pas, car je suis toujours empoignée par ces grandes fêtes nationales où magistrats et citoyens se coudoient et fraternisent dans un même sentiment. Par la suite, cohérent avec son engagement, Gustave Adolphe accepte en 1908 d'être candidat à l'Assemblée constituante qui doit organiser l'Église protestante. À Pâques 1908, il s'en ouvre à Frédéric Barbet. Toutes les préoccupations sont à l'heure actuelle tournées vers l'élection de la constituante religieuse dans 15 jours. On espère arriver à une liste unique malgré tout le mal que nous font les ultranationalistes. Mais les partis seront si sensiblement égaux en nombre que le travail de cette constituante sera une grosse affaire. On m'a demandé d'en faire partie, je ne puis pas refuser. Il y a un devoir auquel on ne doit pas se dérober quand on a pris certaines responsabilités. Mais nous aurons devant nous deux mois très chargés et difficiles à traverser. Lors de l'élection du 3 mai 1908, Gustave Adolphe est assez mal élu. Preuve en est de l'animosité dont il est encore l'objet pour ses prises de position en faveur de la séparation. Il participe tout de même activement aux travaux de la Constituante, tout en se plaignant de la longueur et de l'ennui des séances. Finalement, c'est encore dans le contexte de l'Église que Gustave Adolphe nous donne un ultime témoignage de sa modernité. En 1910, lorsque l'Église délibère sur l'opportunité d'accorder le droit de vote aux femmes, Gustave Adolphe se plaint auprès de sa fille. « Tous les vieux conservateurs encroutés se démènent pour faire rejeter dimanche l'électorat féminin dans l'Église. Je crains qu'ils ne réussissent. » Ce pronostic pessimiste n'est heureusement pas confirmé, car les femmes obtiennent bel et bien droit de vote au sein de l'Église nationale protestante. On peut se demander si la présence à ses côtés de 5 filles qu'il chérit tendrement et qui le lui rendent bien n'a pas incité Gustave Adolphe à rompre une lance en faveur de la cause des femmes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Marie-Claude.
Est-ce que vous avez des questions de compréhension?
J'aimerais juste préciser que Louis Appiat était déjà à Genève en 1830. Il a fait le collège pendant 2 ans. Alors, il connaissait bien la ville de sa mère, qui était maire. Sa mère avait été bourgeoise de Genève. Il faut bien préciser ça. Et puis, en 1898, j'ai vu l'annonce du Deutsche Hilfsverein qui annonçait le décès de Louis Appiat, comme quoi il faisait partie de cette société d'aide aux Allemands. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour ces précisions.
Oui, je crois qu'on peut dire ceci. J'ai dû tellement sabrer dans mon exposé que j'ai évidemment pas parlé de la période des études, parce que il a fait son collège à Genève, son père avait fait sa théologie à Genève, les Vaudois du Piémont, quand ils devaient étudier, ils venaient à Genève, parce qu'en général, il faut bien le dire, à Genève, on les subventionnait. Alors, l'église vaudoise du Piémont a été portée à bout de bras par l'église de Genève pendant près d'un siècle.
D'autres questions sur Gustave Adolphe ou Louis Appiat? Eh bien, merci beaucoup encore à nos conférenciers, à notre conférencière. C'est l'heure de la pause, donc il y a du café.